Vous écoutez
RMC. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h09, de retour dans les grandes gueules du sport, votre rendez-vous jusqu'à midi, le samedi, le dimanche, nous sommes en direct avec Christophe Cessieux, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Fred Weiss ce matin. Nous allons parler du 15 de France dans quelques instants, dans une semaine, samedi prochain, Irlande-France, la finale du tournoi à destination. Fabien Galthié, doit-il changer une équipe qui gagne? À 10h30, la punchline des GG autour de Tadej Pogacar, c'est une exclusivité RMC interview dans Bartoli Time, à vivre demain à partir de 19h30 avec Marion Bartoli, Benoît Boutron. Tadej Pogacar laisse planer le doute sur sa participation à Paris-Roubaix dès cette année. On en parle à 10h30 et puis 10h45, les GG contre-attaque. Vous le savez, mes GG, vous prenez les commandes de cette émission en nous proposant un débat soumis au vote sur le compte X des grandes gueules du sport. Le grand gagnant viendra exposer sa problématique. Christophe Cessieux, ta proposition aujourd'hui?
Oh, mais moi je vais vous parler de vélo. Vous savez, j'ai des obsessions comme ça. Le vélo et le Tour de France, non pas 2025, mais 2026, avec le départ qui sera de Barcelone. C'est la première fois que la grande cité catalane accueillera un grand départ. Avec une nouveauté, tu sais que Christian Prudhomme aime bien les nouveautés, il a décidé donc de nous organiser pour la première étape un contre-la-montre par équipe. Alors c'est un très bel exercice, mais c'est pas le truc que je préfère, moi, dans le cyclisme. Mais
c'est surtout, ce sera qui le maillot jaune?
On commence pas le débat, Sarah.
Il y en aura un qui terminera premier, si, parce que dans les derniers mètres, ils auront le droit de se lâcher.
Si tu veux en parler, tu votes pour Christophe Cessieux sur le compte X des grandes gueules du sport, tu as le droit. Okay. Ou alors, tu nous fais ta proposition maintenant.
Alors, moi, je choisis toujours des sujets un petit peu poil à gratter. Et là, il y a une information qui ne vous a sûrement pas échappé, mais qui n'a pas fait beaucoup de bruit. C'était mardi dernier. Le Sénat a adopté une proposition de loi qui vise à interdire le port de tous les signes religieux dans les compétitions sportives professionnelles et amateurs, ainsi que dans les piscines municipales.
Donc ça veut dire quoi, tous les signes religieux?
C'est la même chose.
Tu vas voter pour Sarah si tu veux mon cher Christophe.
Cette loi, elle concerne tous les signes religieux et forcément le port du voile, qui a souvent fait débat. Et donc moi, je voudrais évoquer cette laïcité dans le sport. Est-ce qu'on est en train de reculer sur la neutralité, sur le rôle du sport en France?
Ok, très excellent débat évidemment. Fred Weiss.
Mais alors moi aussi j'ai des convictions comme Christophe et.
Non, pas de basket.
On va peut-être observer deux personnes se mettre des baffes dans un championnat. En tous les cas, c'est ce qu'a proposé le directeur technique national de la fédération de boxe. Il dit que c'est une éventualité. Et évidemment, moi, ça m'a séduit. J'ai pris une licence à toutes les grandes gueules, alors principalement à Christophe et à Pascal. Et en tous les cas, moi, j'adore.
Non, mais c'est surtout que.
Tu veux mettre une grande baffe dans la gueule, c'est ça?
Ouais, j'adore.
Surtout que Fred, il pourrait être très, très bon quand même.
Il va nous tuer, Pascal. Alors, il va nous tuer tous les deux.
Non, mais pour toutes les fois que tu as cours d'argument, on pourrait directement s'affronter sur un concours de baffe.
Bah, on verra ça dans quelques instants avec le 15 de France.
Je veux pas faire ce jeu-là.
C'est vrai que les grandes gueules du sport pourraient s'appeler les têtes à claque aussi. Oui, en tout cas, c'est la proposition de Fred Weiss. Pascal Duprat, ta proposition?
Non, moi, plus sérieusement, j'ai aussi des convictions, bien entendu. Donc, je vais vous parler de football. J'espère que les auditeurs vont être d'accord avec moi. Voilà, PSG joue ce soir contre le LOSC en championnat, pendant que Liverpool récupère depuis mercredi soir et prépare son 8e aller de Ligue des Champions à Paris mercredi prochain. Donc une semaine, non pas de vacances, mais de préparation pour les Anglais. Est-ce que le calendrier ne risque-t-il pas de plomber le PSG? J'aimerais qu'on débatte et j'ai des arguments pour ça.
Ok, voilà. Et là, vous allez voter sur le compte X des grandes gueules du sport. On parle évidemment de votre débat préféré à 10h45.
J'ai une question, on est tous à égalité, on peut faire un concours de baffe pour savoir qui gagne?
On fera ça.
Oui, oui, commence dès maintenant. Non, commence sur Christophe.
Ça va, Pascal,
défoule-toi.
Léna Marjac en direct de Kranjskagora. Léna, où en sont nos Français dans ce slalom géant?
Deux Français ont pris le départ pour l'instant et malheureusement on a déjà un premier abandon. Léo Anguenaud, 3-4 portes seulement de passer, puis une faute d'intérieur. Donc Léo Anguenaud sorti dans cette première manche. Mais il faut noter la très très belle cinquième place de Thibaut Favreau. Il est à 8 dixième d'Henrik Kristoffersen, le Norvégien Norvégien qui est en tête. Alors certes, c'est 8 dixièmes du premier, mais il est à seulement 3 dixièmes du podium. Donc tout à l'heure, à partir de 12h30 pour cette deuxième manche, eh bien Thibaut Favreau peut aller clairement jouer une place sur le podium de ce géant ici à Krunchka Gora. Et on aura encore 5 autres Français au départ. Ce n'est pas terminé. Alban Elesi Cannaferina, Flavio Vital, Léo Van Parent, Guerlain Favre et Mathieu Fèvre. Voilà les 5 Français encore en lice dans ce géant à Krunchka Gora. On le rappelle, hein, c'est des conditions pas très bonnes aujourd'hui. Il y a surtout des nuages et la neige eh bien, est assez compliquée à maîtriser sur ce géant de Krunchka Gora.
À tout à l'heure, Léna. Proverbe irlandais pour débuter ce nouveau débat dans les grandes gueules du sport. Celui qui n'est pas fort doit se montrer intelligent.
RMC, le bras de fer GG.
Il va y avoir duel, pied le biarré. Ouh, l'anglais, c'est l'anglais, quel ballon. Essai
les anglais.
Je finis par douter, moi.
Avec le pilier, Baxter, c'est
essai. Essai les anglais.
On n'est jamais absolument sûr de rien.
À hauteur, l'essai d'Elio Antelli.
J'ai de sérieux doutes à ce sujet.
Le départ de Guillard, il va essayer.
Essai de Guillard.
Tu n'as aucune raison de douter de moi.
Attention, bien à l'intérieur pour Dupont. Le troisième essai français.
Non, faut pas douter.
Allez, dans le fermé, allez, peut-être il a inversé Dupont. Il essaie le crochet intérieur, il relève pour Barré qui est arrivé. L'essai
ouais, Barré. Quel essai de Barré.
Pour ma part, j'ai toujours cru en lui.
L'espoir est de retour après avoir passé 73 points à l'Italie. Le 15 de France retrouve des couleurs et son ambition, remporter le tournoi des 6 nations. Pour cela, il faudra battre l'Irlande chez elle samedi prochain. Les festivals offensifs face au Pays de Galles et à l'Italie et en Italie, pardonnez-moi, permettent aux Bleus de s'offrir cette finale en Irlande. Les choix de Fabien Galthié ont été payants. Les absents Damien Penaud, Romain Ntamack en tête en feront peut-être les frais. Vous connaissez tous l'adage, on ne change pas une équipe qui gagne. Que va donc faire le sélectionneur Fabien Galthié? Fabien Galthié doit-il changer une équipe qui gagne? Dans le coin gauche, la team Oui, représentée donc par Christophe Cessieux et Pascal Duprat. Ils sont ensemble, tout arrive. Dans le coin droit, la team Non, représentée par Sarah Pitkowski et Fred Weiss. Christophe et Pascal, je vous le dis tout de suite, vous allez devoir commencer car vous n'êtes pas soutenu par le public. On vous a posé cette question sur le compte X des grandes gueules du sport. 64% pense que non, il ne doit pas changer une équipe qui gagne. Avant de débattre, d'accord, on va retrouver la voix du rugby sur RMC, Wilfried Templier. Salut Wilfried.
Salut tout le monde.
Bonjour.
Salut.
Wilfried, évidemment, on a envie de savoir si tu as déjà des indiscrétions sur la compo du sélectionneur.
Oui, cette équipe de France, je vais vous le dire, devrait évoluer par rapport à l'équipe alignée à Rome. On attend deux principaux changements. Le premier, c'est le retour de Romain Ntamack, suspendu en Angleterre, en Italie, après son rouge lors de la première journée. Alors, ça fera 5 semaines sans match pour lui, mais il a travaillé avec les Bleus à Marcoussis, puisqu'il a quand même été convoqué, même la semaine avant l'Italie, il était là. Et il fait partie ce week-end des 19 joueurs protégés, entre guillemets, par la convention, qui ne joueront pas en top 14, et qui sont réunis en ce moment même, justement, à Marcoussis. Alors, qui dit Ntamack de retour, dit Thomas Ramos à nouveau à l'arrière. Il a été excellent dans l'animation en Italie en poste de 10, mais il va retrouver son poste et donc pousser Léo Barré hors du groupe. Voilà pour le premier. Le deuxième changement, c'est le retour de Damien Penaud, l'ailier qui n'était pas en Italie, qui payait sa mauvaise fin de match en Angleterre et qui a donc joué, vous en souvenez, avec l'UBB dimanche dernier. Eh bien, il revient. Il sera titulaire à la place d'Ati Sogbé. Et c'était déjà entendu, ça, de toute façon, avant même le match à Rome. C'était petite punition. On lui tire un peu les oreilles. Mais il revient, ça il le savait. Enfin, deux interrogations. La première autour d'Emmanuel Méafou, le deuxième ligne toulousain qui a été victime d'une infection pulmonaire il y a plus de 2 semaines. Qui était forfait à Rome, il est guéri, mais il n'a repris que la course ces derniers jours. Cette semaine, il n'avait pas remis les pieds sur un terrain. Ça semble tout de même un peu juste pour Dublin, même si ça peut évoluer. Si venait lui à déclarer forfait pour l'Irlande, c'est encore une fois le Lyonnais Michael Guillard qui le remplacerait, qui a été lui excellent en Italie. Et enfin, dernière incertitude, c'est Gaël Ficou, de retour, qui est de retour après sa fracture d'un pouce, cette fracture fin décembre. Il a joué 36 minutes à La Rochelle. Il sera titulaire face à Pau aujourd'hui avec le Racing. Mais il faudra donc trancher entre lui et Pierre-Louis Barassi au poste de numéro 13.
Merci beaucoup Wilfried Templier, tu restes avec nous pour ce débat. Fabien Galthié, doit-il changer une équipe qui gagne, oui ou non? Pour l'instant, vous êtes largement en faveur du non, il ne doit pas changer à 64%, mais attention,
c'est hallucinant, 64% des gens veulent que la même équipe qui a battu
exactement
l'Italie soit alignée.
Essaye de les convaincre, Christophe, commences.
Non, je ne vais pas convaincre, je ne vais pas arriver à convaincre des gens qui... Enfin bref.
Ils
ne
comprennent pas le rugby.
Mais non, mais c'est pas ça. Mais
le management.
Tu n'affrontes pas la même équipe.
On est d'accord.
Hein, vous êtes au courant?
Ouais.
L'Italie,
oui,
c'est la deuxième division du rugby. l'Irlande, c'est la première, c'est genre la deuxième nation mondiale. Est-ce que tu joues de la même façon, avec les mêmes atouts, face à l'une que face à l'autre? On a vu que face à l'Angleterre, quand on hausse un peu le niveau, l'équipe de France redescend d'un cran. Là, évidemment, face à l'Italie, elle aurait sans doute gagné de la même manière face à la Géorgie, face à l'Azerbaïdjan, face à la Namibie. Mais là, tu vas monter d'un cran, tu vas affronter les tauliers chez eux.
Qui tombent battus
les deux derniers. Avec nos tauliers, on a fait un super match contre l'Angleterre.
Quand il présente, c'est-à-dire que Wilfried, il a parlé comme si il parlait plus de conditionnel. Wilfried, c'était sûr.
Mais parce que Wilfried a des bonnes informations. Parce que c'est un gros journaliste.
Mais t'es co-sélectionneur, Wilfried.
Au rugby, t'arrives à savoir rapidement.
Ouais, je vois ça.
Il va y avoir des changements. Mais non, mais tu t'adaptes en fonction de l'adversaire que tu vas affronter.
Oui, mais
je veux dire, un Damien Penaud, c'est un garçon qui depuis des années fait gagner le 15 de France. C'est l'un des meilleurs ailiers au monde. C'est un ailier que toutes les meilleures équipes au monde voudraient avoir.
Il a fait
un retour moyen face à l'Angleterre. T'es allé le piquer et tu vas avoir le résultat. Mais c'est comme si en basket, Wembanyama faisait pas un bon match. Tu le mets sur le banc une fois pour le piquer. Mais tu le rappelles pas la fois d'après.
Mais qui a dit que Dupont serait pas sur le banc? Si tu compares, bien. C'est le coup Wembanyama.
Penaud, c'est le même genre. Mais regarde la majorité. Regarde un peu ce que tu verras un peu.
De ce que j'ai compris, il défendait pas super bien. C'est pas le meilleur. Certainement, offensivement, c'est incroyable.
Mais Ramos en défense, tu crois que c'est le meilleur défenseur de la Terre?
C'est pas du tout ce
Et pourtant, il y est, Ramos.
La question. Et en ouvreur, il est excellent aussi. Mais alors, tu fais quoi?
Mais donc, tu fais quoi? Tu prends le pour et le contre d'un joueur. Penaud, c'est un formidable marqueur d'essai. C'est un garçon qui va à une vitesse, qui donne la confiance, qui donne l'expérience à une équipe. En même temps, t'as ce côté un peu moins défenseur. Ramos n'est pas un grand défenseur non plus, mais c'est un formidable joueur au pied, un formidable ouvreur qui a la capacité de jouer à l'arrière et au 15. Un joueur comme Barassi, par exemple. Barassi, moi, il m'a pas complètement convaincu depuis le début du tournoi.
En fait, là, t'es en train de parler des individualités, mais si on prend l'équilibre global de l'équipe, cet équilibre global, il a quand même été.
Mais face à l'Italie, c'est des tocards.
Il faut bien tirer des enseignements de quelque chose qui est exceptionnel. Il y a un moment, effectivement, ils vont pas mettre 70 points à l'Irlande. On est bien d'accord. Mais cette équipe qui en a mis 70 à l'Italie, elle peut peut-être en mettre 30 aux Irlandais. Avec cette équipe-là, en fait, j'aimerais pas être Fabien Galthié, franchement.
Il s'est fait mal au crâne en alignant cette équipe parce que plupart des mecs qu'il a alignés ont été très bons.
Mais ils ont été très bons. Il a ouvert un joker incroyable.
L'Italie.
Il a ouvert un joker incroyable. Ce joker peut peut-être servir. Ntamack, ça fait 5 semaines qu'il a pas joué. Parce que le problème, il vient d'où? Il vient d'où le problème? C'est Ntamack. C'est avec ce carton d'Ntamack qui fait qu'il a dû réinventer toute l'équipe et trouver d'autres solutions. Mais si tu remets Ntamack, en fait, tu refais jouer tout. C'est comme une partie d'échecs. T'es obligé de changer toutes tes pièces. Donc la question, je suis bien d'accord qu'il faut peut-être remettre Damien Penaud, mais est-ce qu'il faut réintégrer Ntamack?
C'est la question. C'est la grande question parce que je suis d'accord avec toi.
C'est pour ça qu'il y a
J'ai été convaincu par Léo Barré à l'arrière, qui me semble plus solide sur.
Il y a Will aussi comme sélectionneur.
Sous les chandelles, j'ai été convaincu par Ramos à l'ouverture et Ntamack. 5 semaines sans jouer et les derniers matchs qu'il a effectués, c'était pas encore le grand Ntamack. Mais en revanche, au milieu du terrain, c'est un formidable défenseur et il va falloir mettre les barbelés face à l'Irlande. Donc c'est pareil, tu as des qualités, t'as des pour, t'as des contre, et avec tu dois faire ton équipe.
Mais c'est pour ça qu'on fait ce débat, et Pascal, je te donne la main tout de suite pour voler au secours, même si je sais pas s'il en a besoin, de Christophe Cessieux. Fabien Galthié doit-il changer une équipe qui gagne? Moi, j'aimerais parler de management, parce que avant la rencontre, Fabien Galthié, il a fait des choix forts. Comment t'expliques après aux mecs qui ont répondu présent en Italie? Oui, alors j'ai fait des choix forts, mais là, quand les matchs vont compter, je vais peut-être plus vous faire jouer. C'est dur quand même.
Parce qu'en amont, je suis certain qu'au travers des entretiens individuels, il a dit à Barré, par exemple, écoute, il y a des piliers, il y a des joueurs premium, et puis, tout doucement, tu commences à faire ton trou. Tout simplement, la communication. Je voulais simplement dire une chose, c'est que Sarah, pardon, je vais pas parler de Christophe parce que je veux pas le tailler sur ce coup. On est ensemble. Vous êtes, t'es dans le ressenti, Sarah. Or, Galtier, c'est le manager avec son staff. Il travaille en amont. Mmh. Il explique les choses. Tu m'arrêtes, Wilfried, qui est aussi sélectionneur. Ah,
tu crois qu'avec Damien Penaud, ça s'est bien passé?
C'est super bien passé.
Parce que je veux dire, avec Penaud, ça s'est bien passé.
Top, ça s'est certainement pas super bien passé avec Damien Penaud, mais toujours est-il que je suis certain que Damien Penaud, il savait qu'il allait être, avant même l'Italie, il savait qu'il allait jouer en Irlande, parce qu'autrement Galtier s'enferme et il se prive d'un de ses leaders et il fout quelque part un peu Beans dans le potage dans son groupe. Tu m'arrêtes donc le deuxième sélectionneur, Wilfried, tu m'arrêtes. Je pense que d'ici lundi, ils vont se retrouver à 42. Donc il fait Galtier fait valoir les notions de groupe, du manager contemporain. C'est pas une équipe, un 11 qui va à la vie, à la mort jusqu'à la fin du tournoi, comme ça a pu être le cas il y a peut-être 30 ans. Aujourd'hui, il réfléchit en fonction de l'état de forme de ses joueurs, il réfléchit en fonction de l'adversaire, des données tactiques qui ne sont pas les mêmes, aussi de ses finishers, parce qu'en Italie, ils étaient 7 avant, mais cette fois-ci, 7 avant, c'était facile, parce qu'ils savaient à coup sûr que le résultat, quand les finishers allaient rentrer, le résultat était fait. Or, en Irlande, peut-être qu'il va avoir besoin de faire le résultat, et que ces changements concernant l'équipe type vont dépendre aussi de qui il placera sur le banc de touche. Tout ça, c'est la réflexion, c'est l'art du manager.
Juste pour aller dans le sens de Pascal, quand Léo Barré est sorti, il a raison sur une chose, quand Léo Barré est sorti du match de l'Italie, le discours qu'il avait, il l'a dit à l'antenne RMC, nous l'a dit en off, et il ne se faisait pas d'illusions, il a dit, moi, je devais pas jouer pendant le tournoi, mais Romain Tamag, il y a une hiérarchie, Romain va revenir et on me l'a expliqué, je sais, et voilà, là j'ai été mis à l'arrière, mais les choses sont claires en fait, donc on repart avec l'équipe de la première journée dans cette configuration.
Je sais pourquoi tu nous poses la question alors, c'est l'équipe
vous les anciens sportifs de haut niveau aussi, et Christophe qui connaît parfaitement le rugby, est-ce que vous avez l'impression qu'il faut changer une équipe, comment manager cette équipe qui a performé en Italie?
Moi on parle de manager une équipe et j'en ai marre de Fabien Galtier, moi il me donne mal à la tête. Il est passé de on est sur la durée, on travaille sur la durée, peu importe les résultats, on va te faire jouer, à on met en concurrence. Ben, si on met en concurrence, on met les meilleurs. Si on met les meilleurs, on met la dernière équipe qui a très bien joué. Alors je comprends l'argument de Christophe qui dit sur certains points il faut changer. Évidemment, c'est pas la même équipe en face. Sur certains petits ajustements, je peux comprendre. Mais dans l'absolu, pourquoi tu veux changer une équipe qui gagne? Elle vient de gagner, elle vient de montrer des choses. En plus, c'est quoi réellement l'objectif? L'objectif, c'est 2027, la Coupe du Monde. Donc, c'est préparer les joueurs.
Il faut gagner des trucs.
Si on peut gagner des trucs avant,
vas-y, frère. On a rien changé depuis combien de temps, là? C'est quoi les trophées qu'on a gagnés? En 2022, on a gagné un truc, on n'a rien changé. Bah, continuons comme ça. Ne changeons rien.
On a gagné le trophée Garibaldi la semaine dernière. Tu l'oublies? On l'oublie trop souvent, celui-là.
C'est quand tu gagnes en Italie, bon.
Objectivement. À un moment, faut arrêter de dire on est content de ce qu'il y a, on est content de la façon dont c'est managé. Galtier lui-même, le premier, a dit je veux mettre les gens en concurrence. Bah, fais de la concurrence, mais dans ce cas-là, respecte la concurrence. Bah non, respecte la concurrence.
Si, les mecs, par exemple, bien, avec Penaud, tu peux pas dire le contraire.
C'est très bien, mais va t'asseoir maintenant. Bah non, c'est pas ça la concurrence. C'était très bien, tu joues, et je continue à te faire confiance, on continue à avancer ensemble, et on voit ce que ça donne.
Mais te rate pas, parce qu'après, sinon, il y a Damien Penaud derrière pour Attisolbet, par exemple.
Exactement, okay. Exactement.
Olivier nous appelle au 32-16, il veut trancher ce débat. Bonjour Olivier.
Bonjour à tous, bonjour mesdames, bonjour madame, bonjour messieurs.
Bon, t'es dans bonjour. Quel camp? T'es dans bonjour, le camp de Sarah Olivier. Et de Fred? Faut où pas changer l'équipe qui gagne ou Christophe Sessieux?
Parce que le camp du sélectionneur templier.
Non, alors moi ce que je pense, c'est que de toute façon, on est un peu dans les deux cas, je suis d'accord un peu avec les deux. Je vais m'expliquer par rapport à ça. Je pense que de toute façon, si on dit, il faut qu'il change une équipe qui gagne, et que en Irlande, Penaud bat le record d'essai et nous fait gagner le match, tout le monde dira il a eu raison. Si jamais le match contre l'Irlande, on passe à travers, et entre autres les joueurs qui reviennent, et entre autres les cadres, on dira il a eu tort. Donc c'est un peu facile, si vous voulez, avant ou après le match. Je me rappelle avant l'Italie, il y avait quand même les deux discours. On met 70 points à l'Italie, on dit c'est extraordinaire l'équipe. Moi,
mais Olivier, un sélectionneur, il doit faire ses choix avant et après c'est après qu'on sait s'ils se sont avérés payants. Forcément, c'est
d'accord,
le jeu aussi.
Justement, mais est-ce que ça peut pas être aussi dans les deux cas? Est-ce qu'on peut pas dire, voilà, il a fait des choix, il a mis un turnover, il a mis des joueurs un peu sur la touche. Penaud, il revient quand même de blessure. Je trouve qu'on l'enterre un peu vite. Et peut-être qu'il y a eu une discussion, à mon avis, avant avec Penaud comme ses remplaçants, pour dire voilà, là je te mets un peu sur le côté, t'es passé au travers contre l'Angleterre, t'es pas prêt. Par contre, tiens-toi prêt pour l'Irlande, parce que l'Irlande, je vais avoir besoin de toi. Je vais avoir besoin, parce qu'il y a quand même quelque chose que vous prenez pas en compte. J'ai entendu ceux qui étaient pas pour changer l'équipe. Mais il y a quand même, on parle tout le temps dans le sport de haut niveau, collectif ou pas, on parle de respect à tous les niveaux. Vous en avez parlé tout à l'heure avec l'arbitrage. On peut pas respecter quand même des joueurs comme Penaud. On peut pas les respecter.
Ça n'existe pas le respect dans le sport.
Attends, c'est la performance qui existe. C'est pas nous qui l'avons laissé chez lui contre l'Italie. Hein, c'est oui. Le sélectionneur. Hein.
Non mais là vous mettez un joueur. Non mais vous mettez un joueur chez lui. Non mais vous mettez un joueur sur la touche. Penaud, il n'est pas passé au travers de 5-6 matchs de l'équipe de France. Il est passé au travers d'un match contre l'Angleterre, mais je vais juste vous dire, je vais juste vous dire, parce que par rapport à ça, vous en avez parlé, j'en ai entendu la semaine dernière dans vos débats, mais c'est tellement facile de taper sur un ou deux joueurs très précis, Jalibert ou Penaud, et de ne pas parler des autres, parce que la vérité, moi je suis un fou de football, mais je suis un fou de sport en général, j'ai regardé le match du rugby, mais dès le début, je me suis dit, là, ce match, on est à l'envers, on va jamais gagner. Des joueurs comme Dupont, des joueurs comme Ramos qui quasiment sont dans la perfection, dont nous on a l'habitude de ça, et du coup on se dit, quand ils passent au travers, c'est pas normal. Si, c'est normal, ce sont des êtres humains, pas des machines. Mais Ramos, dès le début du match,
mais Olivier, on va pas faire le match. On a compris ton sentiment, mais moi
c'est le sélectionneur
répondrais que c'est le sélectionneur qui les a stigmatisés, qui les a mis en avant, les écartant. C'est pas nous, même si on en a fait évidemment des débats, mais c'est lui qui a fait ses choix et on parle évidemment de ses choix en conséquence. Merci d'avoir été avec nous, Olivier. Je vais faire plaisir à Christophe et Pascal. Vous avez gagné un petit pourcentage. Nous sommes normal. Désormais à 63%. Fabien Galtier, doit-il changer une équipe? C'est non à 63%.
Là, les arguments vont mûrir.
Donc on est deux fois mieux qu'eux, c'est ça?
Juste pour merci Wilfried Templier d'avoir été avec nous. On te retrouvera évidemment tout au long de la semaine dans le Super Moscato Show. Et le match est à 15h15 samedi prochain avec toi,
la bataille
Wilfried,
de Dublin,
avec Denis Charvet et avec Christophe Cessu en direct de Dublin. 10h31, on se retrouve dans quelques instants pour Tadej Pogacar. C'est une exclusivité RMC Sport. Alors Paris-Roubaix ou pas? Il y a un doute.
RMC jusqu'à midi,
les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h35 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Pascal Dupraz, Sarah Pitkowski, Christophe Cessieux, Fred Weiss. Dans 10 minutes, les GG contre-attaque. Une énorme surprise, hein. Pascal Dupraz qui nous propose un débat sur le Paris Saint-Germain et le calendrier du PSG. C'est seulement 11%. Il est derrière notre ami Pascal Dupraz. Je ne vous dis pas l'identité du vainqueur, c'est extrêmement serré. Tout de même, entre Christophe Cessieux et Sarah Pitkowski, on parle de votre sujet ou non. Dans 10 minutes, on verra qui a gagné. Mais tout de suite, ce sera la punchline. Ira pas, c'est la question que tous les amoureux de cyclisme se posent. Tadej Pogacar va-t-il enfin tenter le défi Paris-Roubaix? Le champion slovène laisse planer le doute dès cette année dans une interview exclusive à retrouver demain dans Bartoli Time à 19h30 avec Marion Bartoli et Benoît Boutron. C'est la punchline des GG.
RMC, la punchline GG.
I did a recon for Paris-Roubaix.
J'ai fait une reconnaissance pour Paris-Roubaix. Je dois dire que cela a attiré mon attention. Peut-être dans un futur proche, oui, il y a une grande chance que je prenne le départ. Je ne peux pas dire cette année ou celle d'après. Je ne peux pas dire non. Il y a toujours une chance. On verra. Laissons un peu la surprise. J'adore vraiment la course. Je pensais que c'était trop dur pour moi, mais quand j'ai fait la reconnaissance, j'ai vu que je pouvais. Si je suis en forme, peut-être je pourrais essayer. Je pense que la décision sera prise après Milan-San Remo le 22 mars.
Et c'est la première fois qu'il parle aussi clairement de Paris-Roubaix. Tadej Pogacar, c'est donc sur RMC et ce sera demain dans Bartoli Time. Gagner Paris-Roubaix, est-ce un plus grand exploit pour lui que de gagner le Tour de France? Oui ou non? Plus grand exploit Paris-Roubaix, oui ou non? Christophe Cessieux.
À ce stade de sa carrière, ce serait un plus grand exploit.
Pascal Dupraz.
Non, je pense que c'est pas un plus grand exploit.
Ok, Fred Weiss.
Oui.
Oui. Sarah Pitkowski.
Bah, je suis sur le oui aussi.
Tu es sur le oui aussi, donc ce sera un nouvel affrontement entre Pascal Duprat et Christophe Cessieux. Christophe, pourquoi oui?
Alors, pourquoi oui? Alors, c'est vrai que quand tu compares les deux courses comme ça, c'est vrai, course de trois semaines, des dizaines de cols à avaler, des contre-la-montre, le stress du classement général, une course qui se déroule sur une journée, c'est pas tout à fait la même chose, mais c'est pas n'importe quelle course qui se déroule sur une journée à Paris-Roubaix. Le rêve ultime, évidemment, du commun des champions cyclistes, c'est de remporter le Tour de France, ne serait-ce qu'une fois. Quand tu l'as gagné, tu entres dans la légende de ton sport. Le problème, c'est qu'avec Pogacar, la légende, il y est déjà entré depuis belle lurette. Il a déjà largement dépassé tout ça. Les tours, il les enfile comme des perles. Et toutes les autres courses également. Et quand tu as 26 ans, qu'est-ce qui peut asseoir encore un peu plus ta légende? Eh bien, c'est justement de triompher sur des courses dont on dit qu'elles ne sont pas faites pour toi. Et Paris-Roubaix n'est pas fait pour Tadej Pogacar et ses 66 petits kilos. Quand tu pèses aussi peu, tu te fais bousculer dans tous les sens sur les pavés de la trachée d'Arenberg. Tu as du mal à naviguer entre les pavés, les flaques, les à côté. Et c'est vraiment pas une course qui est faite pour lui. Cette course, elle est faite pour ceux qui l'hiver pataugent dans les sous-bois, les Mathieu Van Der Poel qui pèse plus de 10 kilos par rapport à Pogacar, pour Wout Van Aert évidemment, tous ces gars-là qui sont de véritables pilotes sur les pavés et qui savent contourner les pièges. Donc, si Poggi parvient à battre les tauliers sur leur terrain, eh bien là, ce sera le plus grand champion de l'histoire. En tous les cas, il entrera dans un club très fermé. Il y a très peu de garçons, des grands vainqueurs de tours qui sont allés triompher sur Paris-Roubaix. Il y en a quatre. C'est simple. Il y en a quatre dans toute l'histoire. Après-guerre. Faustocopie en 1950. On a eu, également en 1953, Jacques Anquetil, Eddy Merckx et Bernard Hinault, le dernier en 81. Bernard Hinault qui détestait cette course. Il l'a traité de saloperie. Oui, Paris-Roubaix, c'est une saloperie. Mais pourtant, eh bien, parce qu'il savait que pour rentrer encore un peu plus dans la légende, il fallait qu'il soit un jour vainqueur de Paris-Roubaix. Il l'a disputé quatre fois, a connu toutes les galères là-dessus pour enfin triompher en 81 et rentrer dans ce club. Pogacar veut entrer dans ce club, s'il veut être l'un des plus grands seigneurs du vélo, il faut qu'il gagne sur Paris-Roubaix et ce sera un vrai exploit.
Ok, Pascal Dupraz.
En fait, Christophe, toi, tu parles comme un vrai spécialiste du vélo, de quelqu'un qui a la chance incommensurable de suivre beaucoup d'épreuves, et notamment le Tour de France. Donc, tu parles comme un spécialiste. Or, si j'interroge les deux personnes qui sont avec nous autour de cette table, et malheureusement, t'as répondu, parce que je voulais leur demander si ils savaient combien... Combien de Tours de France Merckx avait gagné, combien de Tours de France Hinault avait gagné, et combien Merckx ou Hinault avait gagné de Paris-Roubaix. Je pense qu'ils auraient été capable de répondre à la première question, mais pas à la deuxième. Donc, après ton argument où tu dis que Pogacar, c'est pas un funambule du vélo, moi j'ai pas l'impression.
Pas un funambule sur les pavés.
Mais il l'a jamais fait. Tellement il est bon.
C'est pas tout à fait du vélo.
Oui, mais lui, c'est un phénomène. Donc, si ça se trouve, il est là pour défier toutes les lois de la pesanteur, des pavés, de la boue, ou que sais-je encore. Par contre, moi, où je l'attends, alors que je suis un amateur de vélo au sens noble du terme, et non pas un spécialiste comme toi, eh bien, c'est rattraper ceux qui ont gagné 5 fois le Tour de France. Et à mon avis, c'est plus important, parce que les compétitions, bien sûr, sont pas les mêmes. Une course de 3 semaines avec une classique, mais franchement, il marquera l'histoire davantage en gagnant 5 Tours de France ou plus que en gagnant, même si cette épreuve est pas faite pour lui, le Paris-Roubaix. Voilà mon avis d'amateur du cyclisme.
Mais ton ami de passionné spécialiste français qui ne connaît que le Tour de France finalement.
Ok. Sarah Pitkowski.
Il faut que tu me tailles à la fin.
Je vais aller dans le sens de Chris et je suis comme toi, Pascal. Je suis pas une spécialiste de vélo. Cependant, à 26 ans. Tadej Pogacar, aujourd'hui, il me semble qu'il est plus facile d'aller accrocher le palmarès des 5 vainqueurs du Tour de France que d'aller accrocher un palmarès incroyable, celui d'Eddy Merckx, du Tour de France, plus les 5 plus grands monuments du cyclisme.
Il n'y en a que 3 qui l'ont fait, il serait le 4e à le faire, si les 5 monuments. Il n'y en a que 3 qui l'ont fait.
Il n'y a pas que Merckx qui l'a fait, il y en a trois autres.
Il y en a trois qui ont. Alors, qui n'avaient pas gagné le Tour de France, mais trois. Alors,
donnez-moi les noms.
Vous
amenez de l'eau à mon moulin, là.
Mais oui, donc pour moi, ce serait plus exceptionnel que Tadej Pogacar aille gagner sur le Paris-Roubaix que d'aller encore mais chercher un cinquième Tour de France. Il le maîtrise parfaitement, le Tour de France.
Le Tour de France, il l'aura l'année prochaine. En 2025, c'est le quatrième. En 2026, c'est le
quatrième. Attention à ne pas banaliser les Tours de France.
Tu vas peut-être vite en besogne, Christophe. Vous allez vite en besogne.
Pogacar me semble être un type qui aujourd'hui va aller chercher des records. J'ai envie de le comparer. Alors, c'est aujourd'hui, il a déjà quasiment tout gagné. Quand l'année dernière, il rentre dans le cercle très fermé, sur capable de gagner le Giro et le Tour de France sur une même saison, c'est-à-dire qu'il est en train de rattraper chacun des plus grands cyclistes mondiaux. Comme Djokovic aujourd'hui, il a plus rien à prouver, mais en fait, la motivation, en fait, c'est d'aller battre des records de ceux qui n'ont pas encore été battus. Mmh. Et donc, c'est pour ça que moi, je le mets dans la case de, oui, s'il est capable de faire ça et d'aller gagner en plus Milan-San Remo, parce que je crois que ça lui manque aussi.
Exactement.
Lui, il ira effectivement, enfin en tout cas, il rattrapera ce qui se fait de mieux mondialement. C'est pour ça que je mets un oui à cette question.
Ok, Fred, même si on peut entendre ce que dit Pascal, c'est-à-dire que de gagner 5, 6, 7 Tours de France, on se souviendra certainement beaucoup plus de lui que s'il avait gagné Paris-Roubaix, par exemple.
Bien sûr, mais là, on essaie de réfléchir comme Christophe, quelqu'un qui connaît vraiment le cyclisme, et effectivement,
on a dit... Bah, ouais, dis donc, dis pas ça à Pascal.
C'est Pascal qui a dit en premier. Non, je Pascal, te fais reprends les mots de Pascal.
Finalement, le concours de baffe, on va le faire aujourd'hui.
Ouais, mais on va le faire aujourd'hui. Tout ça pour dire qu'effectivement, comme il ne l'a jamais fait, comme on sait que c'est une course qui normalement n'est pas faite pour lui, on sait aussi que c'est une course où t'as pas tes coéquipiers. C'est une course où t'es obligé sur un jour d'être performant. Il y a des aléas de course. Il y a des spécialistes de cette course. Il l'a jamais fait.
Le Tour de France, faut quand même qu'il pédale, même s'il a des coéquipiers.
Évidemment, il a une équipe qui peut l'aider, s'il a une défaillance, qui peut un peu le soutenir. Là, c'est vraiment sur un jour, tu dois être performant ce jour précis. Et on l'a dit, hein, Bernard Hinault, c'est le dernier à avoir réussi à gagner un grand tour, le Tour de France, et avoir gagné cette course. Donc pour moi, c'est beaucoup plus dur encore.
Ok, c'est beaucoup plus dur. Sachez que cette interview est à retrouver demain dans Bartoli Time à partir de 19h30. Excellente interview de Tadej Pogacar. Il dit tout, il raconte tout. Il va parler évidemment du Tour de France, de Paris-Roubaix. Vous l'avez bien compris, donc c'est à suivre à partir de 19h30. Et c'est excellent, Tadej Pogacar sur RMC Sport. T'as envie qu'il le fasse dès cette année, Christophe ?
Bah oui, moi j'ai hâte de le voir le plus rapidement possible, parce que c'est rare que ce soit une course que tu remportes dès ta première participation.
Mais là, quand tu l'emportes,
il a fallu trois fois.
Je vais prendre fin mars, je donnerai ma décision. Tu penses que
pense qu'il a une secrète envie derrière la tête, c'est de remporter les 5 monuments dans la saison. Et pour cela, il faut d'abord remporter Milan-San Remo, qui est la course la plus incertaine, celle qu'il est le moins sûr de remporter, parce que il y a tellement d'aléas. Et une fois qu'il aura gagné Milan-San Remo, je pense que l'appétit viendra en mangeant et qu'il s'alignera au départ
si
de Paris-Roubaix.
Il gagne Milan-San Remo.
Je pense.
Là, la petite musique va lui peut-être dire mi-avril, début avril.
Parce que derrière, les courses sont à sa mesure. Le Tour des Flandres, il a déjà gagné. Le Tour de Lombardie, il en est le maître.
Merckx a gagné Tour de France et les 5 monuments en une saison.
Je ne crois pas. J'ai un doute, je vais vérifier, mais je crois pas.
Par contre, vous êtes sûr qu'il a gagné 5 Tours de France, Merckx, c'est bien ça?
Ouais.
Ouais, donc voilà. Donc vous savez pas combien.
Ouais,
comment,
mais Poggi aussi en 2026.
Mais il va aller gagner ses 5 Tours de France, les doigts dans le nez.
Franchement, c'est un jour la possibilité, mais donnez de vous mettre dans un octogone. Pascal Duprat et Christophe Cessieux.
Moi, sinon, j'ai une solution. Hein. Les baffes.
Oui, les baffes. Fais gaffe, Chris. Hein,
pas de violence, pas évidemment.
Ah non, l'octogone, c'est pas de violence.
Tu es l'axe de l'épaule. Tu es bien l'axe de l'épaule. Ouais. C'est ça, les basketteurs.
Dans un octogone, tu es pas tranquille. Hein, t'es pas obligé de te battre. Hein.
Franchement, sur une moto à l'occasion de Paris-Roubaix, avec Christophe qui conduit, je veux bien le faire. Hein. Franchement, je veux bien être avec lui.
Postule. Envoie ta candidature à Karine Nedjari. Super. Allez, on se retrouve dans quelques instants pour la suite des grandes gueules du sport. Qui a gagné? C'est dans quelques instants qui a gagné. Les GG contre-attaque, à tout de suite sur RMC.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport. RMC jusqu'à midi, les grandes gueules du sport.
Jean-Christophe Drouet.
10h48 de retour dans les grandes gueules du sport avec ce matin Fred Veil, Sarah Pitkowski, Pascal Duprat, Christophe Cessieux. Dans une dizaine de minutes, à partir de 11h, on ouvre une page Formule 1. Croyez-vous à la merveilleuse entente entre Lewis Hamilton et Charles Leclerc des derniers essais? C'était hier, ça s'est d'ailleurs plutôt bien passé pour Charles Leclerc. Évidemment, on va débattre et on va vous donner toutes les dernières informations au sein de l'écurie Ferrari à 2 semaines du premier Grand Prix de la saison. Ça se passera en Australie. Mais tout de suite, c'est à vous de jouer les GG.
RMC, les GG contre-attaque.
4 propositions de débat ce matin, effectuées par les GG. Ces propositions, vous les avez entendues à 10h. Vous avez pu voter, chers auditeurs, sur le compte Twitter, le compte X des grandes gueules du sport. Pour votre débat préféré, à la dernière position, c'est une surprise, Pascal Duprat. Un calendrier qui pourrait plomber le Paris Saint-Germain, le PSG qui affronte ce soir Lille au Parc des Princes. Ensuite, il y aura le match face à Liverpool. Liverpool, ce week-end, se repose. 13% étaient convaincus, mon cher Pascal, tu t'inclines.
Gardez mon sujet, je suis déçu, mais gardez mon sujet en stock, parce que ça aura une importance, vous le verrez.
Parfait, merci mon cher Pascal, qui est en train de vous dire, chers auditeurs, vous avez eu tort de douter de moi.
J'avais de très bons arguments. Je veux
dire, il faut quand même, c'est rare qu'avec un sujet PSG, t'arrives à perdre. Hein.
19%,
oui, mais c'est pas vrai.
Il est troisième.
Merci Christophe.
Les BAF, en France, le concours de BAF qui pourrait peut-être supplanter la boxe. Bravo Fred, tu t'es bien battu.
Ça reviendra.
Mais c'est pas l'heure des BAF. 30%
tant mieux,
pour
parce
les
que ports. J'étais comparé ma main avec celle de Fred. Il n'y a pas photo.
Le port religieux dans le sport, interdit par le Sénat. Maintenant, ça va passer à l'Assemblée. 30% pour toi, Sarah. C'est un débat extrêmement intéressant. On en reparlera dans cette émission si, évidemment, cette loi est adoptée. Et 38% pour le Tour de France 2026 et ce départ avec un chrono par équipe. Christophe, tu t'es imposé ce matin, 38%. À toi de nous délivrer ton sujet, ta problématique, c'est maintenant.
Alors vous savez qu'il y aura bientôt plus de départs du Tour de France depuis l'Espagne que de départs de la Vuelta depuis l'Espagne. Il faut se souvenir qu'il y a 3 ans, la grande boucle s'était lancée de Bilbao et du Pays Basque. Et donc, en 2026, ce sera le Tour de Barcelone, la grande ville catalane qui a déjà vu la caravane du Tour passer à 4 reprises chez elle tout au long de son histoire, mais qui n'avait jamais eu le privilège d'accueillir un grand départ. Évidemment, Barcelone, ça claque, hein, les Ramblas, la Sagrada Familia, la colline de Montjuïc, tout ça à moins de 160 kilomètres, je vais y arriver ce matin, 160 kilomètres de la frontière française. Je trouve que c'est un choix judicieux qui va participer à étendre encore un peu plus la légende du Tour. En revanche, ce qui me semble moins judicieux, c'est d'organiser lors de la première étape un chrono par équipe. Ce sera le premier de l'histoire à se dérouler lors d'une première étape. Choix surprenant quand on sait que cet exercice qui a longtemps fait partie des incontournables du Tour de France est tombé en désuétude depuis quelques années. Le dernier chrono par équipe sur le Tour remonte à l'édition 2019 lors de la deuxième étape qui était disputée à Bruxelles. Et là, soudainement, sans prévenir, Christian Prudhomme nous annonce donc que l'édition 2026 commencera par un chrono. Je reconnais bien là la volonté de Christian de surprendre tout son monde, de proposer des choses nouvelles auxquelles personne ne pense. Maintenant, je suis pas convaincu par l'idée. Certes, il y a rien de plus beau qu'un chrono par équipe, je parle visuellement parlant, c'est 8 garçons habillés à l'identique sur des vélos de l'espace, là aussi en tout point pareil, et qui se relaient dans un exercice millimétré, c'est assez magnifique, mais j'ai peur que ça ne fige le classement général dès la première étape. Alors il n'y aura pas des écarts incroyables, hein, parce que l'étape fera 19 km seulement, mais vu la force de frappe des formations telles que l'UAE ou la Visma, ça risque quand même de repousser dès le premier jour des garçons font partie des favoris ou des outsiders du Tour à des secondes, des trentaines de secondes, des 40, des 50 secondes assez facilement. On sait que les organisateurs du Tour ne rêvent que de prolonger le suspense jusqu'au dernier jour de course. Et avec ce chrono par équipe, j'ai peur que dès le premier jour, certains postulants soient déjà repoussés un peu trop loin pour envisager le maillot jaune final. Et puis, on adore Pogacar, on vient d'en parler, mais le voir porter le maillot jaune de la première à la dernière étape, je pense que ça peut être un peu lassant, parce qu'évidemment, avec l'UAE et avec ce formidable rouleur contre la montre, c'est lui qui sera en jaune en 2026 à l'issue de la première étape.
Ok, il sera déjà en jaune à l'issue de la première étape. C'est une mauvaise idée, ce contre la montre par équipe, même si c'est innovant. Ce serait une première dans l'histoire. C'est une mauvaise idée pour Christophe. Qui veut réagir?
Je je comprends pas, Chris. Il y a forcément, parce que là ta position, c'est de dire que c'est pas une bonne idée. Mais on sait que les organisateurs du Tour de France, ils sont là aussi pour créer une forme d'incertitude. Donc, ouais, si tu dois être un peu neutre,
mais
ce serait quoi l'argument qui fait que effectivement ça pourrait être une bonne idée? Ça peut pas être qu'une mauvaise idée. Et là, j'arrive pas à en trouver.
La seule bonne idée, c'est de le faire sur une distance très courte. C'est 19 km, 19 km.
Il n'y aura pas beaucoup d'écart.
Il ne
devrait pas y avoir des écarts trop importants. Mais tu vois, c'est un peu dans
c'est innover pour innover.
C'est un peu dans le spectacle. Mais non, mais voilà, on est à Barcelone, c'est magnifique. D'ailleurs, Barcelone, puis l'année d'après l'Angleterre. Hein. Donc il y a plus qu'un départ en France tous les 6 ans désormais. Donc ça commence à faire beaucoup. Moi j'adore, hein, je me balade à l'étranger, mais c'est un peu le spectacle, c'est l'image, c'est la belle image de Barcelone.
La belle image de Barcelone, ils sont pas obligés de faire un contre la montre par équipe. Ils peuvent faire une étape.
Et ce chrono par équipe.
Ils peuvent faire un prologue avec le même tracé,
Moi, je suis pas grand fan de.
T'aimes bien le chrono par équipe.
J'adore. J'ai toujours adoré ça et j'étais un peu triste de pas de.
Ouais, le problème, c'est qu'en vélo, tu mets dans une épreuve de Ligue des Champions, tu mets Liverpool, le Paris Saint-Germain, qui sont l'UAE et la Visma, avec des équipes de troisième division.
Oui, mais moi, j'entends. Pour l'image d'un néophyte comme moi, moi, je trouve ça magnifique. Au contraire, comme tu disais,
c'est beau.
Coureur,
non, c'est beau.
Pareil,
c'est beau à voir.
Moi, je suis super fan de.
Mais on va pas avoir un Français en maillot jaune pendant les 2-3 premiers jours. Pour nous faire croire qu'on pourrait.
Déjà, t'auras pas de Français en maillot jaune en 2026.
Ouais, mais le suspense, ça va être comme d'habitude, parce que je vois pas la Visma se faire beaucoup larguer sur 19 km.
Alors, tu sais que ça peut changer des choses aussi. Changer des choses au niveau de la composition des équipes. Parce que, du coup, ils vont être obligés d'aligner des rouleurs. Les deux grandes formations vont être obligés d'aligner des rouleurs qui ne seront pas forcément à l'aise une fois la montagne venue. Parce que c'est les mecs qui sont là habitués à tirer des grands bouts droits et qui seront peut-être manquants ensuite dans la montagne. Et la montagne, il y en aura dès le lendemain d'ailleurs. Donc voilà. Bon, écoute, on verra. Je demande qu'à changer d'avis et être
convaincu
par
ça. En tout cas, tu seras à Barcelone en 2026.
J'espère, si je ne suis pas viré d'ici là.
Et c'est long, 2026.
Ah, oui, une
chose est sûre, il sera à Lille en 2025.
Ouais, même là, on n'est pas sûr
d'aller au départ de 2025.
On ne peut pas être sûr. Allez, on se retrouve dans quelques instants.
Un dérapage est vite arrivé.
Pour la suite des grandes gueules du sport, on va parler de Ferrari, du début de la saison, c'est dans 2 semaines. Hamilton, Leclerc, croyez-vous à la merveilleuse entente? A tout de suite sur RMC, les GG ne sont pas d'accord.
RMC jusqu'à midi.
Les grandes gueules du sport.